Ézéchiel, chapitre 2, eh bien, il y avait cette prophétie d'Ézéchiel qui a parlé de... qui a prophétisé sur l'Église, et l'Église qui allait être comme ce parfum d'agréable odeur. Et on avait parlé d'un certain nombre de choses, notamment cette métaphore du parfum qui représente des comportements, qui représente des actions, et notamment il y a un certain nombre d'actions que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. On en a parlé au travers des hommes sages, on en a parlé au travers de Marie, et il y a un certain nombre de choses qui plaisent à Dieu. Et on peut se dire, mais l'Église, comment l'Église peut-elle être un parfum d'agréable odeur à Dieu? De par cette vie nouvelle, cette réconciliation, cette vie que Dieu nous a accordée dans sa grâce. Et quelquefois, dans cette vie nouvelle, on inclut la vie par l'esprit. Quand on vit par la chair, alors des fois, ce n'est pas forcément toujours agréable à Dieu. Et dans tous ces éléments que vous voyez, une vie transformée, repentance, foi reconnaissante, consécration, etc., eh bien, il y a également le parfum de notre générosité. Et ce matin, je voudrais parler de cela. Ça fait partie d'une série, et puis on partagera également lors de la... De Pâques, j'ai à cœur que l'on partage ensuite sur le parfum de notre témoignage. Et quand je préparais ce message, j'ai vraiment été renouvelé, j'ai vraiment été encouragé de relire tous ces textes. C'est vraiment encourageant. Et en même temps, je ne sais pas si... vous savez, la dernière fois, alors je ne vais pas prêcher, parler, faire une étude sur les dîmes et les offrandes. Parce que c'est une autre perspective. Mais je vais parler de la générosité au travers de Philippiens 4, 10 à 20. Et notamment, on a ce verset dans la parole où il est dit, c'est Paul qui parle, Philippiens 4 au verset 18, il est dit, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Étonnant, hein? Et là, on parle d'un apport matériel, d'un apport financier. Et avant de lire le texte, j'ai vraiment reçu sur mon cœur comme un encouragement pour l'Église. L'Église, ça fait combien de temps qu'elle existe ici? C'est quoi, une trentaine d'années à peu près? Et plus, 40? 40, le temps passe. Hein? Et il y avait comme cet encouragement de la part du Seigneur de dire, mais je sais le prix qui a été payé pour que cette église existe depuis 40 ans. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont donné du temps, tous ceux qui ont donné de l'argent, tous ceux qui ont évangélisé, tous ceux qui ont prié, qui ont intercédé. Et je sentais dans mon cœur comme... un encouragement de la part du Seigneur pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là. Parce que Dieu voit et Dieu sait. Donc ça, c'est un encouragement. Et puis, dans ce temps, donc on va lire le texte, je propose qu'on puisse lire ce texte. Est-ce que, elle ne le sait pas encore, Salomé, je peux te demander de lire ce texte ? Avec le micro, ça va ?
Oui. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblée en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Elle est bien, hein ? En formation directement, sans être informée. Je voulais juste partager aussi, alors je n'ai pas forcément l'habitude de partager notre témoignage personnel dans ce domaine-là, parce que d'une part, bah, le Seigneur dit que c'est bien d'être discret. Et puis, c'est vrai que c'est un thème, en même temps, qui, lorsqu'on l'aborde, peut amener des questions en disant « Mais pourquoi il prêche sur les finances et sur la générosité ?» Alors, je suis très content de le faire. D'une part, parce que je sens que le Seigneur me le demande. Et puis, je voudrais partager avec vous une part de notre vie, de ce qu'un petit peu on a vécu. Hier, on était à la matinée missionnaire, hier matin. Salomé a partagé aussi. J'ai été vraiment, vraiment touché par tous ces missionnaires qui démontrent une générosité pour l'œuvre de Dieu. C'était vraiment encourageant. Et puis, en partageant avec quelqu'un hier matin, partageait juste une partie de notre témoignage, et la personne me dit, mais il ne faut pas que tu le gardes pour toi, il faut le partager, que ce soit une bénédiction. Et donc, je vais le faire, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent. Donc, ce matin, je voudrais juste partager quelques éléments. En fait, je me suis converti vers 16-17 ans, et on n'était pas vraiment d'une famille chrétienne, donc aucune idée de l'aspect des dîmes, des offrandes, des finances matérielles, générosité, ben alors strictement aucune idée. Et donc quand je me convertis, une vraie conversion, vraiment je découvre l'amour de Dieu, et le responsable jeunesse de l'époque, qui avait lu un livre sur le sujet, me le prête, j'avais quelques mois de conversion, et il me dit, il est vraiment bien, tu peux le lire. Je me retrouve à l'université, dans ma voiture, entre midi et deux, mange mon sandwich, des fois je priais, pas tout le temps, mais des fois, et puis je lis ce livre. Et là, j'ai vraiment, d'un seul coup, comme une compréhension d'en haut, ça a été simple de comprendre, c'était bizarre. Et quand je le lis, d'un seul coup, je prends conscience d'abord de la générosité de notre Seigneur. Comme une révélation. Dans Philippiens 2, 3, 11, il est dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » La version anglaise dit « Ne faites rien par ambition égoïste ou par orgueil, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Écoutez bien le verset 6, où il est dit, je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible, ou est-ce que, quelle version je vous ai mise ici? Non, elle n'est pas là. Verset 6 de Philippiens, au chapitre 2, il est dit, « Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver pour lui-même. » Et d'un seul coup, je réalise que notre Sauveur, Jésus-Christ, il aurait pu très bien rester dans son ciel de gloire. Il n'avait pas besoin forcément de nous. Mais il a décidé, en accord avec le Père et avec le Saint-Esprit, de venir sur la terre et de se faire homme. Même s'il est toujours Dieu. Mais il a choisi de prendre cette condition. Il est dit que non seulement il s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur, il est devenu semblable aux hommes et aux femmes, reconnu comme un simple homme, comme un être humain. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et il l'a mis à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le salut est gratuit. Dieu a tout accompli en Christ. Et si ce matin, il y a un ami parmi nous qui peut-être n'a pas cette assurance de la vie éternelle, se dit, mais comment faire ? La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, Dieu a payé le prix. Oh là, amen. J'étais touché hier à la matinée missionnaire. Ils ont montré des frères et sœurs en Chine, en Inde, qui n'avaient pas de Bible, de la parole de Dieu. Et il n'y avait que, je crois, que le pasteur qui en avait une. Et quand ils reçoivent la parole, vous auriez vu la joie sur, pour ceux qui étaient là, comme une fraîcheur, une reconnaissance. Nous, on a 10 000 Bibles, on a 10 000 réunions, on a 10 000 possibilités d'être enseignés sur Internet. Mais ce qui compte pour nous, la richesse, notre richesse, c'est notre relation personnelle avec le Père. C'est de dire qu'aujourd'hui, si nous quittons cette terre, ce que je ne vous souhaite pas, mais malgré tout, c'est de dire où allons-nous passer l'éternité. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa générosité, eh bien, il a payé le prix. Et dans le mot grec, il n'a pas regardé à arracher, à préserver. C'est le même mot grec que l'on peut trouver ailleurs dans la Bible, qui nous parle de pillage, de vol. Waouh, c'est fort, hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, Jésus, Christ, n'a pas volé le plan du Père. Il n'a pas gardé et il ne nous a pas volé, entre guillemets, le privilège et la possibilité d'être une nouvelle création, d'être réconcilié avec le Père et de vivre cette vie en collaboration avec lui. Que notre vie ait du sens, que notre investissement, que notre cœur puisse être au service de Dieu, du royaume de Dieu. Quel est le plus grand objectif dans notre vie ? C'est d'investir pour l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai réalisé ça assez vite. Et puis, lorsque Jésus est sur la terre, que fait-il ? Il a vécu à peu près 33 ans. Et une trentaine d'années, qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus-Christ, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vécu une vie modeste avec ses parents. Il a travaillé, non ? La Bible nous le dit. Pourquoi on parle de ce thème de la générosité aussi dans le domaine matériel ? Parce que la Bible en parle. Ça ne serait pas juste de ne pas parler d'une partie de ce que dit la Bible. Oui ? Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a travaillé de ses mains. Et tout le temps qu'il était sur la terre, avant son ministère, visible, on va dire, eh bien, il a travaillé. Vous imaginez ? Notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Non seulement il vient sur la terre, non seulement il quitte ce ciel de gloire, waouh ! Il vient dans un milieu modeste et il choisit de travailler pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Et pendant 30 ans peut-être, ou un peu moins, il a travaillé. Et le fruit de son travail, ça a été de permettre à lui-même et à sa famille de vivre sur la terre. Il aurait pu claquer des doigts, il aurait pu faire un miracle, il aurait pu avoir des millions. Il choisit de travailler. Et ce travail-là, cet effort-là, ce temps-là, cet argent, eh bien, quelque part, était au service de la mission pour laquelle il a été appelé. Il est venu pour donner sa vie et pour que nous soyons sauvés. Et ça, c'est l'exemple de notre Seigneur. Après, il commence le ministère. Et dans ce ministère-là, Il va commencer à prêcher, il va commencer à faire des miracles, il va commencer à appeler des hommes et des femmes à le suivre. Regardez, je ne sais pas si vous aviez noté ça certainement, dans Luc 8, au verset 3, au verset 1, 2, il est dit que dans Luc 8, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnent et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Verset 3, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Regardez-le si vous avez une Bible. Lisez-le avec moi, c'est intéressant. Au verset 3 de Luc 8, il est dit « Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. » Donc Jésus va commencer le ministère, il va exercer son ministère, et à ce moment-là, effectivement, il n'est plus dit forcément, alors peut-être qu'il a continué à travailler, mais en tout cas, il y a d'un seul coup, dans l'œuvre de Dieu, comme des personnes qui vont pourvoir, qui vont investir, qui vont, non, le mot est pas bon, pas investir, mais vont être généreux pour pouvoir libérer Jésus et les 12 dans son service. Et Paul dira plus tard, hein, que en 1 Corinthiens 6, 14, que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Galates 6, 6, que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et Matthieu 10, 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, dans ma compréhension de la parole de Dieu, eh bien, à ce moment-là, j'ai compris, j'ai pris conscience au travers de la Bible que c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes choses. Agé 2, verset 8 dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Il est dit dans 1 Chronique 29, 14 « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est étonnant que le Seigneur, dans la parole, nous amène et nous encourage à donner, puisque l'argent et l'or lui appartiennent. Pourquoi? Et ça, c'est intéressant. Pourquoi il nous demande et il nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et dans Hébreu, il est dit... N'oubliez pas de faire le bien, Hébreu 13, verset 16. N'oubliez pas de faire le bien. Et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça va? Alors, quand je réalise ça, donc très tôt, je comprends que la Bible m'encourage à donner. Pas seulement mon cœur, pas seulement mon temps, pas seulement du bénévolat, mais aussi financièrement. Donc c'était extraordinaire parce que quand j'ai compris ça, j'étais étudiant. Donc étudiant en sciences à Toulouse. Donc j'avais rien. Et donc j'ai dit, Seigneur, j'ai rien, mais je te le donne de tout mon cœur. C'était assez simple. Hein. C'était vraiment sympa. Après, quand on commence à avoir des choses, on se dit, mais comment gérer ça? Et donc pour moi, j'ai compris que si j'étais dans une famille spirituelle, notamment une église locale, avec pas seulement un effort dans l'évangélisation, un effort pour accueillir des nouvelles personnes, l'église de Christ est quelque chose d'extraordinaire. Alors, d'une manière générale, mais les églises locales, c'est quand même extraordinaire. Parce que lorsqu'il y a une église locale dans un endroit, alors ici à Lausanne, il y en a 50, mais des fois, dans certains pays ou dans certaines régions, des fois, il n'y en a qu'une. Et je pense à des amis, je pense à des connaissances qui ne connaissent pas Dieu et qui sont dans des régions où il n'y a quasiment aucune église évangélique. Aucune église qui annonce la bonne nouvelle. Et on ne parle même pas des pays qui sont des champs missionnaires. Quand je voyais hier, au niveau de la matinée missionnaire, je me suis dit, mais il y a certaines régions, mais comment ils peuvent faire pour être sauvés? Comment? Vraiment, hein? Je me dis, mais à part d'une révélation directe de la part du Seigneur, il n'y a pas d'église. Les chrétiens sont persécutés. Ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est l'église locale, c'est vraiment, même si elle est imparfaite, c'est une, je dirais, c'est un phare. C'est véritablement, pour Dieu, une possibilité que des hommes et des femmes puissent le rencontrer. Au travers de ce que l'on vit, la communion, au travers de la koinonia. Et on va voir, alors je finis juste le témoignage. Donc je comprends ça assez vite, en fait, que régulièrement, je commence à soutenir l'église locale. Et après, je comprends aussi qu'on peut aussi donner des offrandes pour la mission, faire des aumônes pour ceux qui ont besoin. Et c'est vraiment une bénédiction de voir la générosité du peuple de Dieu. Et notamment quand j'étais étudiant, j'étais vraiment au bénéfice de frères et sœurs, notamment âgés, qui régulièrement m'invitaient. Alors, ils ne savaient pas toujours, hein, mais en fait, j'avais pas forcément pour finir le mois, en réalité. Même si, comment on va dire, j'étais pas dans la misère, on s'entend. Mais quelquefois, les derniers jours du mois, j'avais plus forcément, donc je me dis, je vais attendre. Et souvent, eh bien, le Seigneur pourvoyait au travers de frères et de sœurs, mais je ne disais rien. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Vraiment, c'était beau à voir. Au-delà de l'aspect matériel, c'est le cœur qui est là. Et après, donc, on se marie avec Sabine. Et puis, en 90, on se marie. Et en 91, on part à l'école biblique. Et là, fort de notre expérience, je me suis dit, bon, on va partir, on a de quoi financer 2 mois. C'était bien, hein, on partait à l'étranger. Et on s'est dit, le Seigneur va pourvoir. Et il va le faire tout de suite. Et puis surtout, j'ai déjà fait des travaux, des petits boulots. Donc, bon, on va travailler, on va s'en sortir. Donc on part, la fleur au fusil, avec nos 2 mois de financement d'école biblique à l'étranger. On arrive là-bas. Premier mois, ça se passe bien. Le deuxième mois, c'est pas mal. Et le troisième mois, on n'avait pas de quoi régler, quoi. Et j'ai fait des demandes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et à ce moment-là, j'étais là, je dis, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que Dieu pourvoit, on est dans le plan de Dieu, et pourquoi maintenant Dieu ne pourvoit pas? Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, ça devient compliqué. Parce que la banque commence à nous appeler, pas pour prendre de nos nouvelles, hein, pour voir s'il fait beau là où on est, si les études se passent bien. Et là, ça chauffe, quoi. Et pour moi, honnêtement, ça a été un choc, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a tout fait. Moi, j'ai tout fait pour trouver du travail. Et là, c'était vraiment un étirement. Vraiment un étirement. L'étirement. Tout se passait bien, sauf les finances. Tout se passait très bien, sauf les finances. Et quand on repart à l'école biblique après la pause, moi je repars pour une seule raison, c'est parce que je ne veux pas laisser de dette. Ça, c'était la raison principale. Je dis, c'est absolument impossible de commencer dans le ministère, de faire une école biblique et de partir et de laisser des dettes. C'est juste impossible, impossible. Et donc là, ça a été chaud, hein ? Oui ? Donc on repart, vous allez dire, non, en Suisse, nous on finance d'abord avant de partir, quoi. C'est pas très sérieux ton affaire. Dans notre contexte, on n'avait absolument pas le choix. C'était bizarre, hein. On a beaucoup de choses bizarres en fait dans notre témoignage, parce que Dieu nous a demandé d'y aller. Alors ça, je sais que des fois quand on dit, voilà, le Seigneur nous a dit de faire ça, des fois il y en a qui nous regardent en disant, ok, vous êtes sûr de votre coup là, ok, donc on part. Humainement, c'était une folie, c'est vrai, on vit ça. Et quand on revient à l'école biblique, à ce moment-là, d'un seul coup, un travail s'ouvre, un super boulot d'ailleurs, bien rémunéré. D'un seul coup, on a un logement, gracieusement donné par quelqu'un qui a vraiment les moyens. Et le Seigneur ouvre les portes et là, il pourvoit. Et je me suis dit, pourquoi il ne l'a pas fait au troisième mois ? Ça aurait simplifié les choses, non ? Vraiment. Seigneur, merci, c'est gentil. Mais waouh ! C'est la honte, quoi. On a été... Moi, j'étais vraiment... C'était terrible. Terrible. Mais le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a fait grâce. On a fait nos études, on est rentré, on a commencé dans le ministère. Mais vous savez ce qui s'est passé au travers de cette expérience-là, au travers de cet étirement-là, de cette incompréhension. D'un seul coup, dans mon cœur, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais dans mon cœur, c'est comme si le Seigneur avait mis l'empreinte très très profonde de dire « mais ne t'inquiète pas, que tu sois dans l'abondance ou que tu sois dans la pauvreté, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui m'insuffle sa force. » Alors, je ne dis pas qu'il faut être inconséquent dans notre gestion. Hein. Dieu nous a donné un cerveau et nous a donné une sagesse. Et c'est pour qu'on s'en serve, c'est bien. Mais des fois, quand on a cette conviction qui vient de Dieu, à ce moment-là, notre raisonnement, à ce moment-là, bien doit être soumis carrément, quasiment, pardon, à cet aspect de dire, mais je vais obéir à Dieu, je vais lui faire confiance. Et là, ça a été vraiment une belle expérience, mais après. Et quelque part, la libéralité dont parle Hébreux 13, 16, la libéralité, les dons, les offrandes, ce n'est pas d'abord ce que l'on donne, ce n'est pas d'abord une action, ce n'est pas ça d'abord. Mais d'abord, c'est quoi ? C'est une disposition de cœur. La définition même, qui n'est même pas une définition chrétienne, c'est la libéralité, c'est la disposition de celle de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie. Et quand on parle de générosité, on peut parler d'argent, on peut parler de biens matériels, de temps, de bénévolat. On peut élargir. Hein. Et donc voilà. Et voilà qu'on commence le ministère. On commence le ministère et à ce moment-là, dans les années 90, et il se trouve qu'on avait implanté 3 églises. Il y avait un soutien pour beaucoup de choses. Il y avait déjà 5 ministères. Donc finalement, financièrement, il n'y avait pas de place pour nous, en fait. Et on a commencé le ministère avec un contrat emploi solidarité. Ça ne vous parle pas, mais pour expliquer, c'est 350 francs par mois pour un temps plein. Alors là encore, on se dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire ? C'était vraiment le temps où on entrait vraiment, on acceptait d'entrer dans le ministère, ou alors je faisais autre chose. Je pouvais faire autre chose, je pouvais trouver un travail, je pouvais servir Dieu entre deux. Mais dans notre cœur, avec Sabine, c'était clairement, le Seigneur nous appelle à être vraiment dans ce ministère-là, à servir l'Église à temps plein. Et ça a duré 4 ans, cette affaire. 4 ans. Et Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu. Et c'était vraiment un encouragement. Et là encore, on a fait des belles expériences. Ça a été, une fois, on avait pu mettre un peu de côté sur un compte. C'était extraordinaire. Et puis l'Église construit. Et donc, elle demande des prêts pour aider pour la construction. Donc, on se dit, OK, bon, on va mettre ça comme un prêt. Et au bout d'un certain temps, cette somme, dans notre cœur, on sent que le Seigneur nous dit, mais donnez-la à l'Église. D'un point de vue comptable, c'était une folie réellement. Mais dans notre cœur, quelque part, on s'est dit, mais vraiment, on veut obéir. Et puis, on le fait joyeusement. On n'est pas contraint. Le principe biblique, c'est de dire, Dieu se plaît, lorsqu'on donne avec joie, lorsqu'on lui donne d'abord notre cœur et qu'on lui donne après ce qu'il y a sur notre cœur. Et vous avez remarqué ici, dans ce texte des Philippiens, à aucun moment, Paul va demander aux Philippiens de donner. À aucun moment, on va le voir. Ils sont complètement libres de donner et ils sont totalement libres de donner ce qu'ils veulent. Donc c'était le principe. Donc voilà, Dieu béni, extraordinaire, c'est magnifique. Et on a connu une autre période d'élargissement dans ce domaine-là. Pourquoi je dis tout ça? C'est juste pour dire que j'ai la liberté de pouvoir parler sur ce sujet parce que je sais que Dieu est en charge. Et c'est arrivé des fois, c'est d'ailleurs arrivé une fois, je peux te donner la parole, sur l'étirement par rapport à notre précédent épisode.
Oui, on a eu quelques épisodes, hein. Mais il y en aura encore, si je comprends bien. Alors, j'ai le choix et je fais un choix. Cet épisode, c'est quand, après l'Angleterre, le Seigneur nous a demandé de prendre le relais pour une église. Voilà ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec larmes. Voilà, ça a été un sacrifice pour moi, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Et puis, ça a duré quelques temps et pour diverses raisons, on a remis la responsabilité de cette église à l'ancien pasteur. Et on s'est retrouvés sur le bassin du lac Lémanique avec une maison en construction, donc des prêts, avec plus de salaire pour Christophe, parce qu'il n'y a pas le chômage pour les pasteurs en France. Et on s'est dit, Seigneur, bon, on va partir, hein. on va vendre et puis on va passer à autre chose. Et le Seigneur nous dit, restez là. Bon, d'accord. Alors, ça devenait un peu compliqué parce que, comme Christophe vous disait, la banque, vous le savez bien, hein, ils patientent légèrement. Et là, j'ai dit, Seigneur, bon, ok, allez, on est reparti pour aussi continuer d'apprendre à te faire confiance dans ce domaine. Et voilà comment ça s'est passé. J'allais régulièrement, parce qu'on était là, mais on n'avait rien on ne savait pas ce qui allait se passer après. Alors, j'avais dit au Seigneur que j'irais tous les jours à la boîte aux lettres chercher l'ordre de mission. J'ai dit, un jour, il arrivera bien. Donc, je vais aller à la boîte aux lettres. C'est une image, hein, pour dire... voilà, l'ordre de mission, de la prochaine mission, va bien arriver. Et puis, notamment, je dis, Seigneur, voilà, comment on va faire sans le salaire de Christophe? Et le premier mois, je vais à la boîte aux lettres, à la fin du mois, donc pour le mois qui arrive. Non, d'abord le premier, pardon. Nous étions dans un grand rassemblement sur Genève de plusieurs églises. Et quelqu'un vient vers nous avec une enveloppe et nous dit, ça vous servira. Donc, quand j'ouvre l'enveloppe, effectivement, c'était le montant du salaire de Christophe pour le mois à venir. Le deuxième mois, donc je vais fébrilement à la boîte aux lettres. J'ai dit, voyons voir. Et une enveloppe avec un chèque du montant du salaire de Christophe, de personnes en Alsace que je ne connaissais pas du tout. Non, alors, tous les mois, juste pour... j'allais dire à notre voisine qui avait compris que la situation était un peu critique. Cette voisine n'était pas chrétienne. Donc, je lui avais dit, je viendrai tous les mois te dire ce que Dieu fait. Et j'ai dit, Seigneur, tu feras quelque chose, n'est-ce pas? Tu feras, hein? Tu as dit que... Alors, tous les mois, après ça, je courais à la porte de chez la voisine et je disais, ah, tu sais pas ce mois-ci ce que Dieu a fait? Et je lui racontais chaque mois. Et puis, le troisième mois... Je vais donc à la boîte aux lettres et je trouve une enveloppe avec exactement le montant en espèces du salaire de Christophe. Et puis, le mois après, on a reçu une grande offrande de gens qui ont permis de couvrir quelques mois. Et ainsi... Non, alors personne ne savait. Voilà, c'était vraiment le Seigneur qui pourvoyait. et jusqu'à ce que notre ordre de mission pour Bussigny arrive. Voilà.
Et au travers, c'est possible. Juste pour dire, bon, c'est vrai qu'on a pris un peu de temps pour partager ces choses, et c'est vrai honnêtement qu'on n'a pas du tout l'habitude de le faire, mais c'est juste pour dire qu'au travers de ces expériences-là, c'est comme si en même temps, Dieu encore une fois avait élargi notre confiance en Dieu. Et c'est vrai qu'on est libre un peu, et dans ce que dit Paul, on est loin d'être Paul, mais quand on revient à ce texte, c'est quand même assez extraordinaire de voir comment Paul est complètement libre de la pression de l'argent. Pourquoi ? Il va dire, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. On voit que dans le cœur de Paul, il a appris... Alors, il y a dans le vocabulaire, il y a tout un vocabulaire qui est étonnamment d'ordre commercial, qui va mettre en parallèle avec l'économie du royaume. Si on a dit que Dieu était le propriétaire, eh bien, nous sommes les gestionnaires. Et c'est vrai qu'en même temps, lorsque Paul est sur le terrain, il aurait pu très bien recevoir des dons des Corinthiens, des Thessaloniciens. Et si on lit l'histoire de Paul, on se rend compte qu'il n'a... Il n'a pas accepté des dons des Thessaloniciens. Il n'a pas accepté des dons des Corinthiens. Parce que l'Église était trop immature. Parce que, à l'époque, dans l'époque de Paul, les philosophes, lorsqu'ils enseignaient, eh bien, s'ils n'étaient pas rémunérés, ça voulait dire pour les Grecs que l'enseignement n'avait pas de la valeur. Paul arrive... Et il prêche l'évangile, il y a des conversions, et voilà que Paul dira, je vais survenir à mes besoins, je ne vais pas vous demander quelque chose. Donc on voit encore une fois qu'ici, c'est pas quelque chose de... Il va pas mettre la pression sur les Corinthiens. Et il va dire, je veux être libre, je veux pas que l'on m'accuse, que ce soit un frein à l'évangile. Je suis totalement libre, parce que si vous ne fournissez pas, vous ne donnez pas de dons, mais de toute façon, je sais que Dieu va pourvoir. De toute façon, je sais. Il va pouvoir, peut-être au travers d'un emploi, il pourvoit. Au travers de parents, au travers, quel que soit le moyen, mais Dieu peut pourvoir. Et il va dire, ce qui le réjouit, ce n'est pas le don en lui-même. C'est le cœur des Philippiens, des Macédoniens, qu'ils aient pensé non seulement à Paul, mais qu'ils ont communiqué une offrande qui va lui permettre de continuer à annoncer l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira, mais je suis réjoui de cela, je suis réjoui de voir l'expression de votre intérêt pour moi. J'ai appris, il dira, mais étonnamment, il dit, mais presque à la limite, j'avais pas forcément besoin de votre don, parce que j'ai appris à être dans la disette comme dans l'abondance. Mais il dira, mais vous avez quand même bien fait de prendre part à ma détresse. Et dans ce texte-là, eh bien, pourquoi l'église de Philippe a été différente que l'église de Thessalonique ou de Corinthe ? Parce que la relation que Paul avait avec les Philippiens était particulière. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, lors du deuxième voyage, le deuxième voyage missionnaire de Paul, à un moment donné, il voulait aller ailleurs, et d'un seul coup, Paul a cette vision d'un Macédonien qui crie sa détresse et qui dit « Viens à mon secours, viens à mon secours ». Ils vont changer les plans et ils vont aller à Philippe. Et là, Dieu va agir, Dieu va intervenir. Dieu va sauver, Dieu va venir et va résoudre, va répondre à la détresse de ces Philippiens. Et ces Philippiens, dans la parole, dans Corinthiens, il est dit qu'ils n'étaient pas riches, ils ont même été dans l'épreuve. Mais ces Philippiens ont tellement été touchés, il y a une telle relation entre Paul et les Philippiens, il y a une telle reconnaissance qu'ils vont communiquer des dons à Paul pour qu'il continue son action missionnaire lorsqu'il est à Thessalonique. Et il est dit dans le texte que les autres églises n'ont pas pris part avec moi à un tel échange de contributions. Autrement dit, le cœur des Philippiens a été touché. Et dans le texte, quand on relit les Philippiens, il y a un verbe, un mot qui revient régulièrement, c'est le mot koinonia. Koinonia, souvent, pour ceux qui sont habitués, c'est on parle de la communion, non ? Communion fraternelle. Mais koinonia, il y a une autre dimension. Il y a la communion fraternelle, mais il y a également cette dimension d'être partenaire. Et dans ce mot-là, on le retrouve, il est dit dans la parole de Dieu, vous êtes en communion, vous êtes partenaire avec nous dans le Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit. Il y a une autre notion, c'est être dans la communion des souffrances de Christ, être partenaire dans l'évangélisation et également partenaire dans le soutien matériel. Il y a une forte relation et il y a également une forte affection entre Paul et les Philippiens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant. Il y a 5 principes de la générosité que l'on retrouve dans cette épître. La générosité, il y a une dimension qui est volontaire et avec joie, on en a parlé, et qui n'est pas forcément dans l'attente de quelque chose en retour. Le don, l'offrande, ce n'est pas un investissement, justement. C'est pas, vous savez, les enseignements où il est dit « Donnez au Seigneur, donnez votre offrande et vous recevrez au centuple. » Par définition, le don, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que l'on donne. Et quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est un calcul. C'est quelque chose qui se fait, je dirais, naturellement et généreusement. On a aussi cette dimension du sacrifice qui nous coûte avec foi, qui s'oppose à la peur. C'est également une solidarité et l'amour de Dieu pour les autres, c'est qui manifeste cette solidarité et l'amour de Dieu pour les autres. Il y a un impact dans le ciel et également, d'une manière ultime, notre offrande, c'est pour Dieu. Et on voit que l'offrande volontaire, on retrouve cela dans la parole où il est dit, dans 2 Corinthiens 8 et au verset 1 à 5, et il parle aux Corinthiens qui ont des problèmes avec l'offrande. Et Paul va leur dire au verset 1, « Frères et sœurs, de 2 Corinthiens 8, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, c'est-à-dire les Philippiens. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Il n'y a pas de contradiction entre la pauvreté et la générosité. Il n'y a pas de considération péjorative sur les riches ou sur les pauvres. On peut être riche et être généreux, on peut être pauvre et on peut être cupide. C'est deux éléments différents. Mais là, où on retient la chose, c'est que je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, ça aussi c'est intéressant, et même au-delà des fois de leurs moyens. C'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. C'est extraordinaire. Ils ont demandé la grâce de pouvoir donner. C'est quand même extraordinaire, non ? C'est un sacrifice. Lorsqu'il est dit au verset 18, ce sacrifice, ce parfum d'agréable odeur, ce sacrifice que Dieu accepte, pour qui c'est agréable. Il y a une notion de sacrifice dans le fait de donner. Pourquoi ? Parce qu'on travaille, ça prend du temps, de l'énergie, lorsqu'on offre, lorsqu'on donne, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour la mission, que ce soit pour ceux qui sont dans le besoin, quelque part, on se prive. C'est comme si on donnait une part de notre vie, en fait. C'est comme si on donnait quelque chose que, finalement, on ne pourra plus bénéficier. Donc, c'est un sacrifice, mais en même temps, c'est un sacrifice qui se fait dans la foi, non pas pour recevoir obligatoirement en retour, mais c'est comme si on disait à l'ennemi, la puissance de Mammon, la puissance de l'argent, eh bien, n'aura pas de prise sur moi. Parce que le seul joug que j'accepte, c'est celui de Jésus-Christ. Et c'est une puissance que je ne veux pas honorer. Et quelque part, on a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin, comme on le disait, d'être, d'avoir aussi une conviction personnelle. Mais quand on l'a, le fait de donner avec foi, on s'oppose à la peur de manquer. Et je suis très conscient, lorsque je partage ce sujet pour visiter, quelque part, je sais qu'il y a des situations qui sont très, très précaires, très alarmantes. Et ce n'est pas, encore une fois, une pression pour dire, voilà, il faut donner, ce n'est pas ça. Mais quelle que soit notre situation, on peut faire preuve de libéralité. Même si c'est petit, même si c'est minime, c'est un état d'esprit d'abord, avant d'être une action. Et cet état d'esprit va, quelque part, être une confrontation contre la puissance de l'ennemi. Et c'est une façon aussi, finalement, de dire à Dieu, je t'adore, je me consacre à toi. On l'a vu avec les hommes sages, on a vu avec Marie. Finalement, tout appartient, y compris le domaine matériel. Tu vois mon cœur, tu ne me juges pas. On voit la veuve qui donne une petite somme. On n'est pas dans une dimension comptable, mais on est plutôt dans une disposition de cœur. Et puis, on le voit ici, on l'a dit tout à l'heure, la foi, c'est de croire que quelle que soit la situation dans laquelle je suis, vous savez, quand on est dans la précarité, il y a une tension extrême. Et la tension, au-delà de l'aspect de matériel, il y a cette pression de lâcher la foi, de dire mais Seigneur, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Le danger quand on est pauvre, c'est d'arrêter de croire. Le danger quand on est riche, c'est de croire que notre sécurité est dans les richesses et de ne plus exercer notre foi. Et j'ai remarqué que ce n'est pas une règle, hein. Mais j'ai quand même remarqué que lorsqu'on était à Liverpool, il y avait des gens qui étaient dans la pauvreté, des chrétiens. Mais qui avaient une générosité qui était absolument remarquable. Ils étaient prêts à donner leur chemise pour aider les autres. Est-ce que c'est le fait de dire, je sais ce que c'est la pauvreté, je sais ce que c'est la précarité, je sais ce que c'est. Et d'un seul coup, le cœur est élargi. Et le cœur, pour ceux et celles qui ont connu des difficultés, eh bien, elles savent, ces personnes savent ce que c'est que d'être dans le besoin. Mais également, on a vu aussi des hommes ou des femmes extrêmement riches qui avaient un cœur extraordinairement généreux, qui ont été touchés par Dieu. Et leur ministère, ça m'a élargi dans ma compréhension, c'est de dire, je ne peux pas, j'ai très peu de temps pour la vie d'église, pour les réunions de prière. Je prie, mais je suis là, mais je suis moins disponible. Et il y a ces témoignages de dire, mais mon appel, mon cœur, comment je peux servir le royaume de Dieu? Eh bien, c'est en bénissant l'œuvre de Dieu, en bénissant les églises, en bénissant les missions, en donnant. Et c'est une forme de service, de ministère. On peut avoir des dons, des talents manuels, on peut avoir des dons qu'on met au service de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a cette manifestation de la solidarité et de l'amour de Dieu. Quand les Philippiens donnent à Paul, Paul est en prison. Il est à Rome. Ils l'ont aidé. Pour l'évangélisation, comme on l'a dit, à Thessalonique, etc., à différents moments. Mais quand il est en prison, Paul continue son œuvre, il écrit, mais ces Philippiens ont gardé les entrailles, ils ont gardé ce cœur pour Paul et aussi pour l'œuvre de Dieu. Et donc c'est une manifestation, c'est ce que Paul dira, vous avez malgré tout raison de prendre part à ma détresse. Et c'est intéressant de prier Je nous encourage à prier aussi pour les frères et sœurs qui pourraient être dans la difficulté et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider ? Alors, on ne peut pas pourvoir à toute la misère du monde, ce n'est pas possible. On a un budget limité et quelque part, de la même manière que lorsqu'on est dans une église locale, dans notre famille, on ne va pas dépenser tout le budget pour les voisins. On va prendre soin des nôtres. Dans une église locale, c'est pareil. Mais en même temps, il se peut que Dieu nous mette à cœur quelqu'un, de dire, mais est-ce qui est très bien, je trouve, dans ce domaine-là, je trouve que c'est d'être discret. De la même manière, par rapport à notre témoignage, on n'avait absolument pas claironné sur les toits notre besoin, mais vraiment pas. Et quand Dieu a pourvu, c'était vraiment lui qui a pourvu, au travers de frères et sœurs. Mais de la même manière que quand on donne, je trouve que pour pas, je dirais, péjorer les relations, je trouve assez sain, alors c'est mon approche, de donner, mais sans dire que je donne. Ça simplifie les choses. Et quelque part, je trouve que c'est intéressant. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Jésus qui dira, quand on est dans cette dynamique de libéralité, finalement, le fond, c'est que je sers qui, finalement ? Est-ce que je sers la puissance de l'argent ou est-ce que je sers mon Dieu ? Et on ne peut pas servir deux maîtres, nous dit la parole de Dieu. Il y a aussi un impact dans le ciel, et je trouve que c'est intéressant lorsque Paul dira, au verset 17, je ne dis pas cela parce que j'ai à cœur que vous donniez. J'ai envie de dire ce matin, je ne prêche pas cela pour que vous donniez plus. Parce que chacun est libre devant Dieu. Chacun est libre devant Dieu. Mais Paul dira, j'ai certainement à cœur de faire fructifier les intérêts qui peuvent s'accumuler sur votre compte. Et là, quand on en arrive à ce stade-là, alors on arrive à une certaine maturité. De dire que lorsque je donne d'abord pour l'œuvre de Dieu. Je donne pour que l'évangile avance. Je donne pour que les besoins des pauvres aussi soient rencontrés. Et Paul se réjouit davantage de dire ces bien-aimés qui ont trouvé la foi au travers de son ministère ont compris que le fait d'être généreux va faire que dans le ciel, il y a comme un trésor qui s'accumule. Extraordinaire, frères et sœurs. Je sais que c'est un peu long, je suis désolé, mais ça, c'est extraordinaire comme pensée. Il est dit dans la parole de Dieu, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre », Matthieu 6, au verset 19 et 21, « où les mythes, la rouille détruisent, les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Paul a compris ça. Quand on parle de finances, quand on parle de dons, on parle de cœur. Et quand on donne, non pas pour recevoir un retour, non pas pour être vu, mais pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu lui-même, à ce moment-là, eh bien, quelque part, ça dénote la façon et dont je donne, va être une indication, finalement, sur mon baromètre spirituel. Parce que vous vous souvenez de Corneille, est-ce que vous vous souvenez de Corneille, quand, acte 10, quand Pierre vient, il annonce l'évangile, il y a le Saint-Esprit qui descend, il y a quelque chose qui est dit concernant Corneille, il est dit, tes prières et tes aumônes, Dieu s'en est souvenu. Il y a une fois un pasteur à Lausanne, avec qui on a collaboré sur un projet, puis c'était dans le cadre du réseau, et à un moment donné, j'étais président du réseau, j'ai dit, écoute, on va te faire une offrande pour ce que tu fais par rapport à la ville. Et ce pasteur me regarde, il dit, ne me prive pas de ma récompense, ne fais pas ça. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il a compris quelque chose. Je lui ai quand même donné. enfin donné, pas moi, mais le réseau. Mais lui était libéré parce que son cœur était, je me suis dit, mais c'est superbe. Et c'est d'abord pour Dieu que l'on donne. Et quelque part, quand on relit ce passage, et je finis avec ça, où il est dit que j'ai reçu d'Épaphrodite les dons que tu m'as envoyés, ils sont une odeur parfumée, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ici, d'une manière ultime, on voit que finalement Dieu est le début et il est la fin. Dieu est le centre et c'est lui qui voit et c'est lui qui pèse nos cœurs. Et il dira, mais votre offrande, il le sent par l'Esprit de Dieu, dit, mais elle est agréée de Dieu, elle plaît à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être le plus important. Vous savez, quand on fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, c'est la Bible qui dit dans Matthieu 10, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et puis un peu plus bas, si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ce que l'on fait pour l'œuvre de Dieu, si c'est d'un cœur purifié, avec des bonnes motivations, à ce moment-là, eh bien, c'est une affaire entre Dieu et nous. Après le reste, chacun porte ses responsabilités. Paul n'a pas été dans et prié pour les responsables, qu'il n'y ait pas cette pression de financière. En fait, vous savez que moi, j'étais directeur de centre de vacances et j'ai géré le budget. Je me suis dit, mais je préfère faire 10 évangélisations dans la rue que de gérer l'argent parce qu'il y a une telle pression des fois, et surtout quand ça manque. Et la pression, si Paul n'avait pas été libéré par rapport à ça, il aurait pu mettre la pression sur les églises pour qu'ils puissent donner, qu'ils puissent, et ça n'aurait pas été juste. Et c'est important qu'on soit bien, bien au clair par rapport à ça. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? Désolé d'avoir été un petit peu long ce matin. Et on va continuer, on va prier pour cela tout à l'heure dans le jeûne et prière. On va avoir un petit quart d'heure de pause. Mais je voudrais vous laisser, ce matin, mardi, on a eu un temps de prière. Et quelqu'un a reçu et m'a partagé cette pensée. Et il voyait dans ce temps de prière qu'on a eu ici à l'église, il voyait des coffres forts. Et des coffres forts qui étaient fermés. Je dis, mais personne ne savait pas ce que j'allais prêcher. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ces coffres forts ? Et la personne me dit, il me semble que c'est tout ce qui pourrait être donné en termes de temps, en termes peut-être matériels, financiers, et qui ne sont pas libérés pour l'œuvre de Dieu. Et là, je reçois, je dis, mais waouh, tu dis ça ? Et j'ai complètement oublié cette pensée. Honnêtement, je ne l'ai pas notée, j'ai oublié. Et ce matin, quand on a prié avec les musiciens, cette pensée est revenue. J'ai dit, tiens, Seigneur, est-ce qu'il y aurait une direction ? Et quand j'ai lu le texte de Philippiens 2, quand il est dit de Jésus qu'il n'a pas volé le Père et qu'il ne nous a pas volé, en acceptant de venir sur la terre par obéissance. C'est lui qui a été le plus généreux, hein. C'est Dieu qui est le plus généreux. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une piste de prière pour notre Église, pour nos cœurs ? Et je dois vous avouer que lorsque j'ai relu ces textes, ça fait 7 ans qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas prêché sur ça, hein. Et quand j'ai relu ces textes, d'un seul coup, honnêtement, dans mon cœur, c'est comme si ça avait réaligné des choses dans mon cœur par rapport à la générosité. Comme si j'ai été rafraîchi. C'est comme si ce homme disait, mais n'aie pas peur, ne calcule pas comme un... Voilà, t'es pas dans la comptabilité. C'est une affaire de cœur et d'obéissance à Dieu. Et c'est une affaire personnelle. C'est la raison pour laquelle je suis libre de partager ça ce matin. Et en même temps, je suis tellement libre et dans la joie que je sais qu'il va y avoir aussi des libérations. Et avec la libération, des bénédictions. Pourquoi ? Parce que comme on l'a entendu ce matin, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous conduire. Dieu a le désir que nous soyons épanouis. Dans le monde, plus on met de côté, plus on s'enrichit, plus on est centré sur nous-mêmes, ça c'est la norme. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la générosité. C'est Dieu au centre. C'est de dire les valeurs du royaume ne sont pas les nôtres. Et je nous propose, je vais juste terminer par la prière, après la prière, vraiment de prendre ce temps, de dire au Seigneur, écoute Seigneur, c'est vrai que c'était long, hein, c'est vrai, mais je veux me remettre devant toi. Et s'il y a une crainte, s'il y a une peur, s'il y a même peut-être de l'amour pour l'argent plus que pour Dieu, Seigneur, je suis ton enfant et tu veux que je sois libre. Tu veux que je sois libre dans ce domaine. Et on va continuer cette prière tout à l'heure, au jeûne et prière. Simplement prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Je te prie que ce qui vient de toi puisse vraiment toucher les cœurs. Et ce qui vient de moi, Seigneur, soit mis de côté. Je te prie que, en tant qu'Église, tu puisses nous amener dans cette dimension extraordinaire d'être libre par rapport à la pression de maman et de pouvoir être généreux, non seulement pour ta gloire, mais aussi pour le bien de ceux et celles qui sont autour de nous, pour le salut de cette région. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour votre patience. On se retrouve dans un quart d'heure pour ceux qui le peuvent. Merci beaucoup.